Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle. Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.
Et bonjour à tous et bienvenue. Alors nous ne sommes pas en direct ce soir, voilà.
À midi.
Nous ne sommes pas en direct ce midi, bien entendu, puisque nous avons enregistré hier soir cette émission. Voilà, donc c'est pour ça on va être comme d'habitude décalé dans le temps. Voilà, contrainte d'agenda pour certains membres de notre équipe. Mais ce n'est pas grave, vous nous retrouverez en direct pour une prochaine émission très très prochainement. Bonjour Aurélie, bonjour Anne-Marie.
Bonjour, salut Guillaume.
Alors,
salut Aurélie.
Oui, oui.
Bonjour. On se dit bonjour, nous aussi.
C'est la politesse.
Bah oui, quand même.
Et bonjour à tous.
Bonjour à tous et oui, bonjour à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent de toute la France et qui nous commentent aussi, qui aiment sur Facebook. Donc n'hésitez pas aussi à le faire, vous, de même. Alors aujourd'hui, on va commencer avec Anne-Marie. De quoi vas-tu nous parler ?
De vacances. Et surtout, vacances avec un petit budget, je vais vous donner, enfin en tout cas, je vais essayer de vous donner des bons plans.
Ok, bon, ça sera dans quelques secondes maintenant.
Et toi, Guillaume, de quoi tu vas nous parler ?
Alors moi, je vais vous parler du Festival de Cannes, donc qui s'ouvre ce soir, mais donc hier soir, voilà.
Actu oblige, d'accord. Eh bien moi, je vais vous parler de lecture, quoi faire pendant ces vacances. Donc Anne-Marie va nous organiser tout ça et moi, je peuple avec de la lecture.
Tu nous organises des activités alors.
Voilà.
Voilà, et peut-être un petit peu de cinéma, tout ça, ça peut faire effectivement de très bonnes vacances. Bien, ben on commence avec toi, Marie, c'est parti. Et donc, tu veux nous aider à partir en vacances à petit prix, vas-y, dis-nous tout.
En tout cas, je vais vous donner des bons plans pour préparer vos vacances à moindre coût. Cela n'a échappé à personne, la crise touche tout le monde. Nos vacances s'organisent plus que jamais sous le signe de la rigueur cette année, selon un sondage réalisé par l'Institut OpinionWay pour voyagermoinscher.com. Seuls 53% des internautes sondés ont prévu de partir en vacances cet été, contre 63% en 2012, 66% en 2011 et 73% en 2008. 25% des personnes interrogées savent déjà qu'elles ne partiront pas, contre 16% l'an dernier à la même époque. D'où ma question, Guillaume et toi Aurélie, est-ce que vous avez prévu de partir en vacances cet été ?
Alors, de partir, pas vraiment, mais d'accueillir des amis.
D'accord, et toi Aurélie ?
Voilà. Et moi l'été, je reste en Lozère. Je ne pars pas, mais par contre, je partirai en vacances, pas d'été, un peu plus tard, à l'automne.
Très bien.
On sera encore obligé d'enregistrer notre émission.
Voilà.
À moins qu'Aurélie parte que 2 ou 3 jours.
Oh bah non.
Pour des vacances, 2 ou 3 jours, c'est pas suffisant. Hein. Enfin, oui, je sais pas, peut-être qu'on peut discuter aussi de la durée des vacances, mais c'est un sujet pour bien souffler tout ça, malgré tout, c'est important.
Tu as raison. Alors côté finances, le budget moyen des vacances d'été est en baisse, bien évidemment, à 588 euros par personne contre 599 euros l'été dernier et 605 euros en 2008. Donc on voit quand même qu'il y a une bonne différence, une bonne marge. 47% de ceux qui prévoient de partir en vacances cet été comptent faire des sacrifices pour réduire leur budget. Allez, je vais arrêter de vous parler de chiffres et je vais essayer de vous remonter le moral.
Puisque donc, on peut quand même partir pas cher.
Gratuitement même. Vous ne me croyez pas ? Allez, petit tour d'horizon, des bonnes combines. Pourquoi ne pas partir dans votre famille cet été ou chez vos amis, par exemple ?
Ah bah moi, c'est le cas de mes amis, hein. Ils viennent squatter chez moi. Hein.
Tu vois ? Voici des vacances classiques, mais conviviales. Pas besoin de payer le gîte, mais par politesse, pensez quand même à faire un pot commun pour les courses. Alors sinon, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Échangez votre maison avec celle d'un autre propriétaire.
D'accord, mais comment on fait ça concrètement ?
Alors, rapprochez-vous des organismes agréés pour intégrer leur catalogue de maisons ou d'appartements. Une fois votre habitation sélectionnée, il vous suffira de vous mettre en relation avec d'autres propriétaires pour partir à la destination de votre choix. Si le principe de l'échange de maisons vous intéresse, consultez le site intervac.fr. Il vous propose des offres d'échange partout en France, disponibles toute l'année. Du studio à la grande villa, en ville ou à la campagne, en bord de mer ou à la montagne, vous trouverez forcément l'hébergement correspondant à vos attentes.
Et si on n'est pas propriétaire ?
Eh bien, vivez avec eux. Effectivement, certains propriétaires vous proposent de loger dans leur appartement ou leur maison contre une petite pièce de monnaie. Consultez le site Bedicasa. Ils donnent des tuyaux pour partir à l'autre bout du monde avec un petit budget. Par exemple, vous pouvez louer une chambre chez l'habitant en Espagne, à Séville plus précisément, pour 35 euros par nuit sur une annonce que j'ai vue hier sur Internet. Voici ce que dit Bédicassa, promet, en tout cas je cite sur sa page d'accueil, il écrit « Pour vos vacances ou déplacements, réservez votre hébergement chez l'habitant à petit prix et sortez des sentiers battus en rencontrant les locaux. Ce nouveau mode de voyage alternatif est très convivial et authentique, idéal pour les petits budgets ou les familles. Présent dans plus de 160 pays, nous vous proposons pour la période de mai et juin de séjourner en Europe autour de 20 euros par nuit. C'est la bonne période pour voyager en Corse, en Espagne, en Croatie, en France, en Sicile ou à Malte. Alors faites vos valises les amis. »
Ah, c'est sympa, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi aller chez l'habitant gratuitement ?
Eh bien si, grâce au couchsurfing, ce qui veut dire passer d'un canapé à l'autre. Alternative atypique, le couchsurfing est de plus en plus pratiqué en France, mais aussi bien évidemment dans le monde. Cet hébergement repose toujours sur la gratuité du logement. Ce sont les règles universelles de courtoisie qui prévalent. L'hôte accueille souvent son invité qui arrive pour un repas, par un repas, donc on lui offre le repas selon ses moyens. On n'est pas forcément obligé, bien sûr, de faire des coquilles Saint-Jacques. Hein. Le visiteur peut offrir de petits présents pour le remercier. La durée d'hébergement est le plus souvent de quelques jours. Alors, selon les termes du site, Couchsurfing cherche à rapprocher les personnes et les lieux dans le monde, créer des échanges de savoir, élever la conscience collective, diffuser la tolérance et faciliter la compréhension interculturelle. Sa mission est de participer à la création d'un monde meilleur, canapé après canapé, selon le site.
Ils se font plaisir quand même un peu dans leur argumentaire. Hein.
En fait, le but, au-delà d'être logé gracieusement, c'est aussi d'échanger avec son hôte et que celui-ci vous fasse découvrir sa ville. Voilà, sa ville ou sa culture, si c'est d'un autre pays étranger.
Et donc, comment ça marche concrètement ?
Alors, il suffit de vous inscrire sur le site internet couchsurfing.com, entrer le maximum d'informations sur vous afin de donner une idée de votre personnalité, de vos centres d'intérêt et de vos valeurs. Petit conseil, réfléchissez bien quand même à ce que signifie ce concept de couchsurfing avant de vous lancer dans cette aventure. Vous allez quand même dormir chez un inconnu. La rencontre demande donc de la disponibilité et avant tout de l'envie. Esprit obtus et pressé s'abstenir, il faut voyager en étant flexible. Le couchsurfing est réservé aux routards qui privilégient la rencontre et savent improviser.
Ouais, ça fait un peu site de rencontre quand même. couchsurfing.com, là, tel que tu nous le dis. Mettez en avant votre personnalité, vos centres d'intérêt, vos valeurs. Et après, par affinité, on vous dira vers quel...
Rigole pas, si ça se trouve, c'est ce que tu vas faire, toi, cet été.
Bon, et alors, est-ce que c'est différent du home-sitting ?
Alors, oui et non. Littéralement, le home-sitting, c'est du gardiennage. Alors, j'explique le concept. On connaissait très bien le baby-sitting ou le dog-sitting. Eh bien, là, c'est le home-sitting. En fait, ce sont des particuliers qui mettent à disposition leur maison pendant une période donnée contre quelques services. Donc, en fait, eux, ils partent en vacances et ils vous laissent leur maison. Vous pourrez occuper gratuitement la villa, moyennant quoi vous vous occuperez, par exemple, du chien des propriétaires, s'ils en ont un. Si vous avez la main verte, vous pourrez entretenir le jardin ou faire quelques travaux de bricolage. Mais soyons honnêtes, le home-sitting ne peut fonctionner que si une relation de confiance existe entre les propriétaires et les locataires, parce qu'effectivement, quelqu'un peut débarquer dans votre maison et tout casser, ou en tout cas...
Oui, et puis on laisse pas son chien à n'importe qui. Aussi bien, effectivement, par confiance.
Tu ne devrais pas faire ça, Aurélien, en tout cas.
Non, c'est une grande preuve de confiance que de laisser mon chien.
Bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a des sites internet. Après, on peut s'appeler. Et en fait, je voyais que c'était surtout les personnes âgées qui faisaient le plus de home-sitting. Enfin, les personnes ont plus confiance en les personnes âgées. C'était en plus les personnes âgées avec des petites retraites, parfois, en tout cas, ça leur convient.
Alors, si on veut partir en vacances gratuitement, sans rien faire et tout seul, comment on fait ?
Bien, il y a une solution.
Une île déserte.
Non, et là, c'est pas une blague. Moi, je vous propose de bivouaquer. Il faut juste avoir envie de laisser son petit confort chez soi et de partir à l'aventure. Là, Aurélie, je te sens faire des grimaces. Donc, vous l'aurez bien compris, dans votre valise, vous glisserez une tente quechua et un sac de couchage.
Non, Aurélie, dans une valise, la belle étoile.
Oui, t'as pas besoin de valise, du coup.
dans ta voiture, quoi.
D'accord, d'accord. Oui.
Alors évidemment, ce n'est pas facile hein, de partir au hasard et de camper une nuit, voire toute une semaine à la Belle Étoile, surtout quand on n'a pas trop l'habitude. C'est pourquoi le site internet lecampingsauvage.fr vous propose une carte des emplacements conseillés par des campeurs aguerris pour bivouaquer partout en France. Donc sur la page d'accueil du site, on peut d'ailleurs lire « Sentiment de liberté, gratuité et respect de la nature font du camping sauvage ou bivouac une philosophie de voyage. Notre but est de vous faire découvrir cette pratique en vous facilitant sa réalisation. » Alors, si vous avez l'âme d'un aventurier, deux conseils quand même. Lorsque vous choisissez votre destination, faites le point sur la législation locale pour être bien dans les règles. Et puis, il vous est conseillé aussi de changer d'emplacement chaque jour pour ne pas perturber la faune et la flore locale.
Et la faune et la flore qui vient perturber mon sommeil. Comment tu m'en protèges avec ce système?
Bon. Ouais, ce qui est important, c'est effectivement la question de la législation et notamment dans les espaces protégés.
Tout à fait.
Comme par exemple en Lozère, dans le parc national des Cévennes, où le bivouac est théoriquement interdit. Mm-hmm.
Mais bon, après, voilà, il y a des coins quand même où on peut, hein, puisque, comme je vous dis, voilà, vous pouvez. Moi, j'ai été sur ce site, hein, lecampingsauvage.fr. Alors, j'ai pas dit que, voilà, moi, c'est pas un truc qui me tente vraiment, mais je trouve que c'est bien fait, effectivement. Voilà.
Et si, effectivement, je ne veux pas aller dormir avec les animaux nocturnes et que j'ai un petit budget, est-ce que je peux quand même avoir des vacances confortables?
Oui, Aurélie, je vais te rassurer. Alors Guillaume s'étrangle et tu es toujours en vie?
Oui, ça va.
Tu ne nous quittes pas?
Il y a un moucheron qui est arrivé.
C'est ça.
C'est un gobeur de
pas mis la moustiquaire.
On ne bivouac pas, mais voilà.
On mange gratos, on mange des moucherons. Bon alors en tout cas Aurélie, pour répondre à ta question, oui bien sûr tu peux partir en vacances et avoir des vacances surtout confortables et moi j'ai envie de dire vive internet, de plus en plus de sites et de voyagistes bradent des séjours de rêve grâce à des sites comparateurs de prix comme lastminute.com, voyagermoinscher.com. Partez au Maroc, aux Canaries ou encore en Égypte pour quelques centaines d'euros, à peine 300 euros par personne. Le plus souvent, le prix comprend le transport et l'hébergement, mais attention à bien lire les petites lignes en bas de page pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Certaines offres vous permettront d'économiser jusqu'à 60% du prix initial. Ça vaut donc le coup de surfer sur la toile et de préparer ses vacances au dernier moment, car évidemment, pour pouvoir en profiter, il ne faut pas avoir peur de partir d'un jour à l'autre.
Oui, et puis on peut aussi dire que ce qui peut aussi se faire, c'est de choisir son départ, si on en a la possibilité, à des périodes avant le rush, donc soit en juin, soit au mois de septembre, pour aussi profiter de tarifs intéressants à ces périodes-là. Mais ça nécessite effectivement de ne pas avoir des enfants à l'école ou de ne pas avoir une activité professionnelle trop dépendante de la saison. On va dire scolaire.
Oui, et puis il faut être assez souple aussi dans ce cas-là pour choisir la destination. Tout à fait. Au moment où en fait, on se dit je veux du soleil, et puis après, ça peut être effectivement l'un des pays que tu as cités ou d'autres.
Ou d'autres, oui. Tout à fait.
Bon, et alors il faut préparer son voyage parce que bon, pour que tout se passe bien, que ça se passe aussi au maximum d'économies, comment on fait pour bien se préparer?
Alors, je vous conseille de bien éplucher, par exemple, hein, le guide du routard ou son site internet. Cette collection de guides touristiques fête d'ailleurs ses 40 ans d'existence hein, cette année. Donc, le guide du routard est indispensable hein, pour bien préparer ses vacances, soit en France, soit à l'étranger. L'idéal pour connaître l'agenda culturel, événementiel et sportif de votre destination, les randonnées ou les bons plans. Bref, des sorties souvent peu coûteuses. Concernant les transports, sachez qu'il faut choisir quand même les formules les plus économiques. Il y en a, comme le bus ou le covoiturage. Consultez par exemple le site du covoiturage.fr et partez avec un inconnu en toute confiance, direction les vacances. Sinon, si vous préférez partir avec votre voiture, sachez lever le pied. Une conduite souple vous permettra de dépenser moins d'essence.
On peut parler aussi de toutes les offres low cost.
Tout à fait, effectivement.
Les vols et un certain nombre... choses qui peuvent être...
Exact.
Magnifique publicité d'ailleurs d'un des opérateurs de low cost, je ne sais pas, dans la presse aujourd'hui, hein, Volotea. N'hésitez pas à aller voir, c'est très très drôle. C'est très très très, très décalé, donc c'est très drôle.
Après, c'est toujours la même chose. En fait, il ne faut pas hésiter effectivement à comparer les prix sur Internet, effectivement même pour des vols d'avion, voir ce qu'ils proposent. Et puis parfois, toujours avoir des offres de dernière minute aussi pour les avions.
Voilà. Soit beaucoup anticipé, soit...
Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc avec tous ces conseils et malgré un petit budget, j'espère que vous passerez évidemment d'excellentes vacances.
Ah bah oui, hein.
Hein,
on espère.
Non mais comme quoi, on peut se faire plaisir avec peu ou presque pas d'argent, quoi. Donc, c'est intéressant,
oui,
de savoir.
Des idées originales, après tout, ça peut être rigolo d'aller camper une nuit, voilà.
Oui,
pas.
Ou d'aller aussi chez des inconnus, ouais. Ou de recevoir aussi des personnes. En fait, le but, c'est aussi ça, c'est de recevoir des personnes et puis après d'y aller si le courant passe bien, un peu à l'époque quand on était au collège et qu'on avait des correspondants.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour à la fin de cette chronique ?
Alors, j'aurais pu vous faire écouter Voyage, Voyage de Desireless, wow. Mais j'ai plutôt...
Voyage, voyage. Après années 80.
Ouais, mais bon, après, je me suis dit, bon, je vais choisir une autre option. Je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir Vendredi 13, c'est une chanson de Pigalle. Alors, vous allez me dire le lien avec ma chronique sur les vacances. Eh bien, il y en a un, puisque, en fait, l'action se passe dans une station service. Voilà, le lien, c'est l'essence.
Ouais, un petit peu tiré par les cheveux.
Bah hein. Non, bah pour partir en vacances, tu prends ta voiture et voilà.
Pour partir en vacances, il faut de l'essence.
Et l'essence, tu la prends où ?
Dans une station service.
Eh bah tu vois, t'as tout compris, Guillaume.
C'est parti.
Sur cette route poussiéreuse, il ne passait personne. Que faisait-elle plantée là ? Dans la station, tout là-bas. À quoi ça sert, dites-moi ? De vendre de l'essence quand il n'y a plus rien ensuite qu'une falaise de granit. Elle s'en foutait bien, la fille en salopette s'étiolait là. Oubliez-la, pour attendre quoi? Servir des gens qui ne viendraient plus jamais jusque-là. Vendredi 13, il était tard, le temps était lourd. Elle s'endormait à moitié, le bruit la fit sursauter. Le tonnerre du Saint-Mirmorque fit trembler les murs de la station décrépite. Et puis le silence se fit. Elle avança doucement vers la cabine bleue, d'où sortit un grand gaillard. Comme dans les histoires, comme par hasard, ses jambes la lâchaient, tellement elle tremblait. Pourtant un jour ça devait arriver, mais elle croyait rêver. Et la vie, comme une toupie, se mit à tourner de plus en plus vite. S'emballer, s'affoler, c'était lui, mais ça aurait pu être n'importe qui. Vendredi 13, il était tard, le temps était lourd. Ils n'ont même pas dit un mot, mais son souffle était si chaud sur son corps solitaire. Depuis combien de temps déjà, elle fixait la lune blanche en s'accrochant à ses hanches. Quand le jour se leva sur la station service, ils étaient encore soudés, à même le sol tout huilé. Elle lui fit un café avec des gestes gauches. Il but et dit merci d'un signe qui disait salut aussi. Vendredi 13, il était tard, le temps était lourd, mais tout ça c'était hier, une impression passagère. Elle refit sa coiffure tant bien que mal, mais sa tête bourdonnait. Elle revoyait ce vendredi 13 dans son souvenir. L'on n'avait plus de visage, mais ses mains comme un message lui disait qu'elle était belle, qu'elle ne serait plus jamais seule. Et en souriant, elle samedi, elle quitterait le pays.
Actu,
elle
et lui.
Nous revoilà sur 48 FM donc pour cette huitième émission de Actuel et lui, et je vais justement demander à Guillaume de quoi vas-tu nous parler.
Eh bien, je vais donc vous parler du festival de Cannes qui a commencé hier soir et donc qui va se dérouler pendant une petite quinzaine. Donc dans cette belle ville de Cannes.
D'accord, donc le 66e festival de Cannes.
Oui, 66e Festival de Cannes, qui donc ouvre ses portes au monde entier, avec ce soir Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio dans le très attendu Gatsby le Magnifique. Ce sont 2 heures et demie de frénésie et d'amour déçu avec ce Leonardo DiCaprio et Carey Mulligan, donc c'est nos deux... C'est un film hors compétition, hein, puisqu'on commence toujours et on termine toujours le festival par un film hors compétition. Voilà, donc cette première montée des marches est forcément très glamour avec cette équipe de Gatsby le Magnifique. C'est donc une adaptation, ce film, du roman de Francis Scott Fitzgerald et qui, lui, a longtemps séjourné dans les années 20 sur la Côte d'Azur. Voilà, il n'aurait pas été dépaysé par ce film. Alors, on sait que déjà, dès ce mercredi matin, les badauds étaient là, armés d'escabeaux, de chaises pliantes, devant les marches du palais, devant ce nouveau tapis rouge tout neuf, fraîchement sorti pour l'occasion. Mais ce soir, hier soir, mais comme on a enregistré, on peut pas vous le dire, il y aura sans doute un petit peu de pluie sur la croisette.
Et tu es déjà allé à un festival ?
Non, je ne suis pas allé à un festival ni à Cannes, mais je suis allé à Cannes, j'ai visité le palais, je suis même monté sur la scène du palais des festivals. C'est assez impressionnant.
Tu étais bien habillé ?
Non, pas du tout. C'est une salle qui est très très verticale, mm-hmm. et avec beaucoup de pentes en fait dans les gradins, et c'est assez impressionnant. Et je pense que, effectivement, pour n'importe qui se retrouve sur cette scène avec cette foule devant soi, c'est assez impressionnant.
Et toi, Aurélie, tu es déjà allée ou pas ?
Non, jamais.
Festival de Cannes ?
Non.
Voilà, mais après, voilà, c'est vrai que c'est toute une ambiance aussi, cette croisette.
Oui, tout à fait.
Avec aussi toute l'activité qui tourne autour de ça et toute la façon dont c'est valorisé à Cannes. Mm-hmm. Voilà, donc effectivement, ce premier film va être le premier à se confronter donc à la critique cannoise. Ce film donc du réalisateur australien Baz Luhrmann, les premiers commentaires ont été plutôt mitigés aux États-Unis où il est sorti il y a peu, mais c'est quand même un carton au box-office avec 50 millions de dollars de recettes dès le premier week-end en salle, ce qui correspond à la moitié de son budget. Donc c'est déjà pas mal.
Donc ça, c'était pour la soirée d'ouverture. Tu nous parles aussi du jury, peut-être ?
Eh bien oui, alors un jury dans lequel figure cette année la star australienne Nicole Kidman, l'acteur autrichien Christoph Waltz, le français bien sûr Daniel Auteuil, ou encore les cinéastes taïwanais Ang Lee et roumain Christian Mungiu. Et donc tout ce petit monde a pu faire mardi soir connaissance lors d'un dîner gastronomique en présence bien sûr du président de ce jury, le très influent réalisateur et producteur américain Steven Spielberg, voilà, Lincoln pour son dernier film, mais plein d'autres grandes pages de l'histoire du cinéma, E.T. effectivement, enfin, voilà, beaucoup de choses. Alors bon, pour lui, c'est un immense bonheur de présider ce jury.
Il va pas dire qu'il est déçu.
Voilà, forcément. Par contre, voilà, une position qui le change un peu. Je n'ai jamais été président auparavant, même dans ma propre famille. C'est ma femme qui est aux affaires. Voilà, il a fait un petit peu une petite blague dans ses interviews de lancement de ce lancement du festival. Et par contre, bon, voilà son avis sur le cinéma français. Il dit « Ce qui me plaît dans le cinéma français, c'est qu'on peut dire des choses extraordinaires à cœur ouvert. Aux États-Unis, si on fait ça, on estime que vous êtes trop sentimental. » Donc voilà, c'était une petite citation dans Libération ce matin. Non, hier matin, voilà. Enfin,
et souvent, une des figures imposées, c'est aussi l'animatrice de la soirée. Donc
le maître, et donc cette année, c'est une maîtresse de cérémonie, une animatrice donc de ces soirées d'ouverture et de clôture. C'est la comédienne française Audrey Tautou, hein, connue dans le monde entier depuis Amélie Poulain, mais connue pour d'autres rôles importants. Et donc, il va avoir cet honneur. Et donc, je pense que c'est un rôle assez difficile parce que il faut
passer, ça doit être très stressant,
passer les plats et en même temps être un petit peu drôle, un peu ironique, faire ça de façon un petit peu à ce que ça soit
un peu décalé,
un peu pas trop.
Surtout qu'Audrey Tautou, on la connaît comme étant quelqu'un de très réservé.
Tout à fait. C'est vrai que c'est effectivement.
Enfin, elle est très introvertie quand même. Donc.
Nous verrons, alors sans doute des déchaînements de robes et autres costumes. Parures de bijoux, tout à fait, pour ces dames.
Et côté compétition, tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, côté compétition, il y a 20 films qui sont en lice, qui sont plutôt axés cette année sur des histoires intimes. Plutôt sur des histoires intimes que sur des grands sujets politiques. Certains s'annoncent même torrides. On fera un petit focus sur ça.
Ça valait un focus alors.
Non, mais puis en plus, c'est un sujet récurrent dans notre émission. Donc, il faut.
Tu me fais passer pour qui là?
Donc, certains ont déjà été couronnés à Cannes. Hein, les Américains Steven Soderbergh et les frères Cohen, le franco-polonais Roman Polanski. Donc, tout cela présenteront donc Behind the Candelabra. Donc, ça, c'est pour Steven Soderbergh. Inside Llewyn Davis pour les frères Cohen et La Vénus à la fourrure pour Roman Polanski. Voilà, après, donc, sur le papier, la lutte promet d'être rude, compte tenu du nombre de talents confirmés et prometteurs retenus donc, par Thierry Frémaux, hein, le délégué général du festival. Donc, il y a le Danois Nicolas Winding Refn pour Only God Forgives, avec Ryan Gosling. L'Américain...
Oui, il y a des beaux gosses quand même cette année.
Oui,
hein.
Quand même. L'Américain James Gray pour The Immigrant, avec Marion Cotillard. L'Iranien Asghar Farhadi pour Le Passé avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim. Ou encore le franco-tunisien Abdelatif Kechiche pour La vie d'Adèle avec Léa Seydoux. Voilà, donc après côté star encore, l'Américain d'origine portoricaine Benicio del Toro, prix d'interprétation masculine en 2008 pour Le Che, sera à l'affiche avec Mathieu Amalric, du dernier Arnaud Desplechin en compétition qui s'appelle Jimmy P.
Et souvent aussi une sélection qui est un peu décalée, Un Certain Regard. Tu peux nous en parler un peu de cette sélection?
Oui, alors il y a cette sélection Un Certain Regard. Donc, ce n'est pas la compétition officielle en tant que telle. Mais il va y avoir des crépitements, notamment pour l'ouverture de cette sélection jeudi, donc ce soir, avec l'Américaine Sofia Coppola qui présentera son dernier opus The Bling Ring avec Emma Watson. Et puis le vétéran Robert Redford portera seul, lui, All Is Lost de J.C. Chandler, qui est hors compétition, dans lequel il joue le rôle d'un navigateur naufragé qui lutte pour sa survie en mer.
Alors, après cette sélection Un Certain Regard, il y a aussi La Quinzaine des réalisateurs, où on a souvent des films assez pointus.
Oui, alors voilà, dans cette quinzaine des réalisateurs, l'actrice américaine Robin Wright sera à l'affiche du dernier Harry Folman, The Congress, film mi-réaliste, mi-dessin animé fantastique, donc qui va être lui aussi présenté en ouverture de cette quinzaine des réalisateurs, donc cette section parallèle du festival. À noter que effectivement, on part avec des films lointains cette année, avec l'Asie qui a 3 films en compétition et l'Inde qui célébrera aussi sur la croisette cette année le 100e anniversaire de son cinéma.
Et des hommages seront rendus aussi?
Oui, alors des hommages, c'est habituel, hein, c'est ceux qui s'apprêtent à bientôt être morts. Rendu à des monstres sacrés du 7e art, parmi lesquels Alain Delon.
Faut pas qu'il nous écoute, hein.
On s'excuse Alain, non, vous n'êtes pas bientôt morts.
Donc, enfin, peut-être, mais bon, on ne lui souhaite pas, quoi.
Qui aura 78 ans en novembre. Également, l'acteur américain Jerry Lewis, qui a 87 ans, lui, est à l'affiche hors compétition de Max Rose, ou encore Kim Novak, inoubliable interprète de Vertigo, sueur froide, d'Alfred Hitchcock.
Bon, et alors, du coup, tu nous disais qu'il y avait des scènes torrides.
Et oui, la sélection promet d'être chaude, avec pas mal de scènes explicites. Ah. Et le buzz signale Michael Douglas embrassant à pleine bouche Matt Damon dans Ma vie avec Libby Rice, de Steven Soderbergh. On attend aussi les étreintes torrides de Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos dans La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, qui dure 3 heures, donc en plus on pourra en profiter longtemps. Mm-hmm. Dans Jeune et jolie de François Ozon, la délicieuse Marine Vacht joue une lycéenne qui se prostitue. Quant à Marion Cotillard, qui ne manque pas de santé, elle vend ses charmes dans deux films, The Immigrants de James Gray et Blue Ties de Guillaume Canet. Bref, la croisette fait un petit peu le trottoir.
Oh non. Oh non. Oh, tu peux pas dire ça, Guillaume.
Non, mais voilà, ça sera le côté un petit peu torride, effectivement, de cette édition.
Bon, bah, à voir, en tout cas.
Après, bah, il y aura aussi des absents dans ce festival. Alors, les absents, bah, qui sont souvent là, les frères Dardenne, avec leur comédie désopilante. Hein. Happy Chapong, Wira Seta Cool et ses célèbres thrillers. Philippe Garrel et ses suspens intenables. Même Woody Allen est resté à l'écart de la cérémonie. Quant à Pedro Almodovar, son nouveau film Les Amants Passagers est déjà sorti en salle en avril. Et Lars von Trier viendra-t-il au marché du film présenter Nymphomaniac, son film porno avec Charlotte Gainsbourg? La question est posée.
D'accord, donc tu nous as parlé de films qui sont déjà sortis, d'autres qui vont sortir. Donc il y a un vrai enjeu économique derrière tout ce festival de Cannes. Donc tu peux nous en dire un petit peu?
Ben oui, Cannes, c'est aussi le plus grand marché du film au monde, avec plus de 10 000 participants d'une centaine de pays, 4 000 films présentés, 1 500 projections, près d'un million de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier.
Un milliard ou un million?
Un milliard. Non, un milliard, puisque... Ah, j'ai dit un million. Près d'un milliard donc de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. Voilà, c'est donc on va regarder ces cérémonies, voir un petit peu. Alors après, on peut aussi regretter ou se féliciter de beaucoup d'actualités dans les médias nationaux autour de ce festival de Cannes. Est-ce que ça en mérite autant? C'est une question qui peut se poser. Bon, certains dans la presse ces jours-ci se plaignent un petit peu de ce tapage, de ces antennes délocalisées, mais bon.
Mais en même temps, ça fait rêver aussi.
Oui, voilà, et puis c'est aussi une partie de la visibilité internationale de la France qui se joue sur ce festival de Cannes. Alors après, on peut aussi évoquer les films qui concernent notre région et notamment la Lozère, qui ont été tournés donc chez nous et qui vont être présentés au Festival de Cannes. Alors il y a le film Michael Colas, un film d'Arnaud Despalières, donc qui a été soutenu par le Conseil général et par le Conseil régional, enfin par la région et Languedoc-Roussillon Cinéma. Donc ce film Michael Colas a été tourné en 2012 en partie en Lozère et pour une autre partie dans le Gard, et notamment le Conseil général a mis à disposition la ferme des Boissets sur le Causse de Sauveterre voilà, pendant 6 mois pour qui a été mis à disposition de la production les films d'ici. Voilà, et vous pouvez trouver des images du tournage sur le site internet du Conseil général. Voilà. Donc l'histoire, ça se déroule au XVIe siècle dans les Cévennes. Michael Colas, c'est un prospère marchand de chevaux qui mène une vie familiale aisée et heureuse. Mais comme il est victime d'une injustice, cet homme pieux et intègre va être amené à lever une armée et à mettre les villes à sac pour rétablir son droit. Voilà, donc une façon aussi de promouvoir les paysages, etc., des Cévennes, donc dans ce film-là. Il y a également d'autres films qui ont été tournés en région Languedoc-Roussillon. Donc, je le disais, donc Michael Colas a été aussi tourné au château d'Aujac dans le Gard. Le long métrage Suzanne de Catel Quillet-Véré sera le film d'ouverture de la semaine de la critique, parce qu'il y a plein de compétitions à côté de cette sélection officielle, Et le tournage de ce film a eu lieu à Alès, Nîmes et Sète. Le court-métrage La Quépa sur la Vilnie de Yann Lekelec sera présenté à la quinzaine des réalisateurs et le tournage s'est déroulé dans les Corbières en septembre 2012. Le long-métrage documentaire Un voyageur de Marcel Ophuls est également à l'affiche de la quinzaine des réalisateurs qui est coproduit par une société de production gardoise et réalisé en région pour la majeure partie de la post-production. À noter également le long-métrage documentaire Au heureux jour de Dominique Cabrera, également coproduit par In the Mood et tourné en partie à Montpellier. Voilà, lui proposé dans le cadre de la programmation de l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion.
Oui, donc ça en fait pas mal. Hein.
Voilà, tout ça donc avec effectivement les soutiens de la région, du département, selon les différents cas. Voilà, et à noter aussi, mais cette fois-ci c'est pas dans cinéma, mais en télé, la saison de Candice Renoir, hein, donc là c'est à la télé, avec plus de 4 millions de téléspectateurs qui ont suivi ces aventures de cette nouvelle commandante de police, mère de 4 enfants, et donc héroïne de cette nouvelle série de France 2, voilà, donc qui a été tournée à Sète et Montpellier, donc. C'est aussi un élément intéressant pour la visibilité de nos territoires dans le cinéma, dans la télévision.
Très bien. Et qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter, du coup?
Alors, c'est très décalé. Je vous propose d'écouter le Festival de Cannes de Mathieu Chédid, de M.
Le festival de Cannes. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes bonnes. C'est toutes des bombes en silicone. Hallucinant dans le ciné, ils disent que je suis mort. Ma dulcinée n'est pas d'accord. C'est le premier rôle dans le scénario. Elle, c'est l'idole, moi, le salaud. Pas de mal à une moche, mes airs de mal, c'est pour le cinoche. Sous ma grande gueule, c'est du bidon. Je signe sur des feuilles pour pas un rond. Et pourtant, je roule des mécaniques. C'est fou le nombre de filles afriques. Elles sont bonnes dans ce festival, c'est toutes des bombes du genre pas mal, pas mal du tout. Sauf qui peut, ça en vaut pas le coup, d'accord. Je me suis gardé pour pas un clou, mais je me dis ni vu ni connu. C'est vrai qu'à Cannes, c'est très cuc. C'est vrai qu'à Cannes, je suis le roi des cons. Ça c'est vrai, mais enfin bon, c'est quand même bien. We'll be right back.
tu,
elle
et lui. Et voilà, c'est la troisième et dernière partie de ce magazine actuel, et lui. Et on retrouve pour cette troisième partie Aurélie. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, comme Anne-Marie m'a dit qu'elle préparait une chronique sur comment organiser ses vacances, je me suis dit que moi, j'allais vous proposer une super façon d'occuper ses vacances, bouquiner au soleil près de la piscine, ou bien, bon, si on se réfère au temps qu'il fait en ce moment pour notre week-end qui arrive, ce sera peut-être le canapé au coin du feu avec effectivement un bouquin.
Et donc, tu as choisi quel bouquin ?
Eh bien, je vous propose une série. Vous savez que j'aime bien les livres en série. Donc, c'est une série qui va réconcilier à la fois les intellos et les autres, les parents et les ados.
Moi, j'aime beaucoup les autres. Ça veut dire quoi ?
Les intellos et les pas intellos.
Voilà.
Voilà. Bah oui. Les parents, les ados, les profs de lettres
genre,
et
la littérature.
Voilà. Voilà, c'est ça. C'est
jeunesse.
Les intellos, ils se laissent stupides.
Je vous laisse libre de vos jugements, et le contraire d'un télo n'est pas forcément stupide. Voilà. Donc, c'est une série de Rick Riordan. Je vais y arriver. Rick
Ah, j'en ai Riordan. Fait des plus durs tout à l'heure. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais comme quoi... Et comme pour le Trône de Fer, il y a déjà deux sous-séries. La première, donc, c'est la série Percy Jackson et les Olympiens. Et la seconde s'appelle Les Héros de l'Olympe. Il y a 5 tomes à chaque fois, même si pour l'instant, il y a seulement 2 tomes dans la deuxième partie. Donc, Les Héros de l'Olympe.
C'est compliqué hein, quand même. Donc, on résume.
T'es pas un télo, c'est quoi ?
Je suis désolé. Mais c'est quoi aussi, voilà, il est tard, on est fatigué. Voilà.
Donc, il y a 2 séries. Une première qui s'appelle Percy Jackson.
Il y a
Jackson.
Une grande série, c'est ça ? Dans laquelle il y a 2 sous-séries avec plusieurs ouvrages à l'intérieur. Non, c'est pas ça ?
Deux sous-séries, Percy Jackson et les Olympiens, et d'accord. Les Héros de l'Olympe, 5 tomes à chaque fois.
Et donc, pourquoi c'est une série ? C'est-à-dire que c'est le personnage qui est commun à tout le monde ?
C'est ça ? C'est la série de personnages et effectivement le thème. Donc, c'est une série de romans de fantasy qui traite de mythologie grecque et romaine. Enfin, si on veut, parce que l'histoire se passe aux États-Unis dans une société moderne. Mais néanmoins, avec la mythologie au cœur du... Ils sont écroulés de rire, je vous dis comme c'est facile pour moi de vous parler de mythologie avec mes collègues, morts de rire.
C'est vraiment compliqué. Donc.
Mais non, c'est pas compliqué. L'idée, c'est de se dire qu'on s'inspire des mythes grecs et que, de façon personnelle, en alliant l'humour, le suspense, on va les intégrer dans le monde contemporain. Donc l'idée, c'est, et si les dieux et les créatures de la mythologie grecque n'étaient pas des mythes, mais existaient depuis toujours autour de nous ? Donc l'Olympe s'est déplacée aux États-Unis, qui est désormais le centre de l'Occident, comme la Grèce l'était à son époque. Bon, ça reste discutable, je le reconnais, mais c'est le principe de la série. On a un jeune Percy Jackson, un ado hyperactif de 12 ans. Il est poursuivi par les monstres de la mythologie grecque. Et sa mère l'amène du coup dans une étrange colonie où il y a, comme lui, des demi-dieux. Voilà la découverte qu'il va faire. Il apprend qu'il est le fils d'un dieu grec puissant. Et du coup, les monstres cherchent à le tuer à cause de ça.
Ça fait penser...
Oui, pardon.
Non, ça fait penser à la série, la saga d'Harry Potter.
Oui, effectivement. Ceux qui n'aiment pas trop Percy Jackson disent que ça les fait penser à Harry Potter parce qu'il s'agit de 2 séries sur des adolescents dans des mondes un peu magiques, mythologiques. Donc, il y a effectivement des ressemblances, on ne va pas le nier. Seulement dans l'histoire... Enfin, il y a des ressemblances dans l'histoire, dans la dynamique de la série qui... elle va être un peu différente. Le monde mis en place par Rick Riordan ne s'intéresse pas aux mêmes mythes et arrive vraiment à transposer en fait, de façon épatante les légendes grecques dans le monde moderne. Par exemple, bon, même si on retrouve une maison par déité, des alliances intermaisons, des dieux plus ou moins retors, un groupe de 3 jeunes, alors évidemment les 3 jeunes, hein, le puissant qui s'ignore, l'ami fidèle, pas vraiment dégourdi, et la jeune fille d'une extrême intelligence qui rejoint le groupe un peu par obligation, je reconnais, c'est très proche de effectivement des héros d'Harry Potter. Mais après, en fait, tout l'univers mythologique permet vraiment de s'en éloigner. Alors, il y a quelques petites piques aussi, des petits clins d'œil écologiques, parce que, par exemple, le dieu Pan, qui est le dieu de la nature, en fait, en quelque sorte, a disparu, et c'est à cause des hommes qui ont fait de la planète un dépotoir, et le Styx, donc le fleuve des enfers, est lui-même pollué, donc les morts, quand ils doivent traverser, ils passent au-dessus d'une rivière polluée. Après, il y a quelques petites perles assez rigolotes.
Les enfers pollués, on est quand même là, on arrive à un point à fond, quoi. Enfin,
On est dans le monde contemporain, enfin, on est dans la transposition vraiment pur et simple entre le monde antique et le clin d'œil, enfin, et sa mythologie et le monde contemporain.
Bon, alors pour les intelligents, enfin, est-ce que ça se réserve aux intelligents, et donc est-ce qu'il faut être super calé en mythologie pour comprendre les histoires?
Ben non, justement, voilà, vous allez pouvoir les lire, puisque persiste et signe, oui. Même si on n'est pas on super est calé, non, vous n'êtes pas super calé en mythologie, visiblement.
Bah qu'est-ce que t'en sais?
Bah je sais pas.
C'est peut-être notre passion, peut-être qu'on
lit. Bah je sais pas, depuis le début, vous avez l'air de dire que...
Que c'est compliqué, oui, voilà. Mais en même temps, c'est compliqué.
Mais non, c'est pas compliqué.
C'est parce que tu n'as peut-être pas lu les deux séries.
Voilà, enfin, les deux séries, c'est ça. Donc, c'est un excellent moyen justement de se familiariser avec l'univers antique. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple qui vont vous rappeler vos cours de mythologie. Donc, le voleur de foudre qui désigne Percy Jackson est accusé à tort par Zeus de lui avoir volé l'éclair primitif. La mère des monstres, qui désigne une mer remplie de monstres où disparaissent les mortels, les demi-dieux. Autrefois, en fait, c'était la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est une référence au célèbre triangle des Bermudes. Le sort du titan, donc le tome 3, qui désigne en fait la punition qui a été donnée au titan Atlas par les dieux, c'est soulever la voûte céleste. De même que la bataille du labyrinthe, eh bien, c'est le labyrinthe de Dédale. Donc voilà, dont on a souvent entendu parler. Les demi-dieux et la colonie des s'affrontent en fait avec l'armée du titan Cronos dans le fameux labyrinthe de Dédale, en fait, dans cette bataille du labyrinthe. Et le dernier olympien, en fait, désigne la déesse, donc le dernier dieu de l'Olympe, la déesse Hestia, qui est en fait l'ultime gardienne du foyer, donc le dernier espoir, en cas de crise, quoi. Et en même temps, du coup, l'auteur arrive à nous faire réviser ou apprendre la mythologie en la réinventant.
Ouais. Apprendre.
Et en la remodelant.
Toi qui ne sais pas.
En la remodelant au monde moderne, parce qu'effectivement, il va par exemple transposer Arès, le dieu de la guerre, donc hyper violent, en motard de la route 66. Donc il nous fait des descriptions avec. Avec sa moto, là, voilà.
C'est peut-être pas forcément à conseiller à ceux qui doivent réviser un examen sur lequel il y aurait des sujets de mythologie.
Mais peut-être que c'est aussi, après, c'est mémotechnique, voilà. Parce que c'est peut-être pas si bête que ça. Ça t'a peut-être donné aussi envie de redécouvrir ces dieux, peut-être, non?
Oui, et puis
de te replonger dans la mythologie, non? C'est un petit peu l'occasion. Mm-hmm.
Ça, en tout cas, ça permet de leur donner un peu plus de chair, quoi, et un peu plus de... Oui, d'infos qu'on va pouvoir ensuite replacer, parce que même si voilà, évidemment l'image du motard est peut-être pas bienvenue dans une copie de sixième, mais par contre je pense qu'on retiendra sans effort le fait qu'il est toujours très belliqueux, que là où passe sa moto il y a une traînée de fumée, voilà, et donc qu'on va voilà, que ça va finir par être retenu, en fait, je pense. Hein.
Mais toi, ça t'a donné envie de te replonger justement dans la mythologie ou pas? Est-ce que du coup, tu t'es dit, je vais regarder...
Non, elle connaît la mythologie, donc elle n'a pas besoin de se replonger.
Non, est-ce que tu as pris un dictionnaire ou pas? Enfin, histoire de...
Bah, en fait, il n'y a pas besoin parce que à chaque fois...
C'est très explicite.
Voilà. En fait, comme il se veut le plus didactique possible, à chaque fois qu'il présente un monstre, un dieu, un demi-dieu, il va vraiment expliquer l'histoire et raconter la petite légende. Par exemple, dans le premier tome, Percy Jackson rencontre Méduse, donc avec sa tête pleine de serpents, etc. Et il raconte l'histoire des trois sœurs et pourquoi est-ce que Méduse pétrifie. Et comme ils sont confrontés tout de suite à ces statues de gens qu'ils connaissent, voilà, on retient ensuite très vite les caractéristiques de chaque de chaque entité, quoi, de chaque personnage. Alors, d'un autre côté, c'est aussi des références qu'on a ou qu'on va peut-être ensuite retrouver. Par exemple, bon, je vous ai cité le dédale tout à l'heure, mais il y a aussi le symbole de l'aigle et de la foudre que vous avez peut-être vu sur le drapeau américain, qu'on voit sur pas mal de monuments, etc. Et effectivement, c'est le symbole de Zeus et de cette antiquité grecque. Du coup, on a d'autres petits, un autre petit clin d'œil que je peux vous raconter, je trouve assez rigolo. Dans le fils de Neptune, il se déplace pour aller rencontrer la reine des Amazones. Et là, en fait, le petit clin d'œil un peu décalé, c'est que les Amazones ont fondé la société Amazon. Oui, celle que vous connaissez, là où on fait ses petites commandes. Et chacune des Amazones, en fait, a un pass pour circuler dans le royaume. Et ça s'appelle le pass achat en un clic. Donc, qui fréquente Amazon, c'est vrai que l'achat en un clic, hop, c'est un petit caractère distinctif de ce site. Et là, c'est du coup retransposé chez les Amazones.
Alors du coup, on disait que ça ressemblait un petit peu à Harry Potter. Donc c'est une saga qui est pour les jeunes ou pour tout le monde, même les adultes?
Ben moi, j'ai trouvé que c'était assez drôle, divertissant. Ça se lit vraiment facilement. Les mythes grecs, du coup, et ensuite romains sont vraiment bien expliqués. Je pense que tout le monde peut suivre.
Tout le monde, hein.
Peut suivre l'histoire.
Nous avons une chance.
Et justement, ce qui peut être très sympa, c'est de comme découverte de la lecture aux plus jeunes, en fait, de pouvoir le lire avec ses enfants ou ses neveux, et de pouvoir ensuite en discuter, parce que je pense que ça permet d'avoir un livre commun. Et d'échanger, de faire naître, pourquoi pas, l'envie ensuite de lire ensemble d'autres choses. Ça peut être un premier pas dans la lecture, ce type de série qui fait naître cet échange et du coup qui montre que la lecture, c'est pas seulement le truc imposé, obligatoire et pénible.
Et donc, il y a aussi une adaptation cinéma ?
Oui, il y a une adaptation cinéma pour ceux qui veulent pas lire tous les livres. Non, il y a que le premier pour l'instant. Et d'ailleurs, quand même, mon actu, c'est ça, c'est que 3 ans après ce premier film inspiré donc de Percy Jackson, le deuxième opus devrait sortir cet été, le 14 août. Et je viens de découvrir en fait la bande-annonce là du tome 2 sur internet. Elle vient d'être sortie par les studios. Donc après, on verra si Percy Jackson va, comme Harry Potter, avoir tous ses opus de transformer en film. Le parcours du premier était un peu mitigé, mais bon. Après le voleur de foudre, donc la mère des monstres devrait être adaptée.
Et tu en as pensé quoi lors de ce premier opus ?
Alors, il y avait de vraies trouvailles. Il y avait un casting de compète, notamment avec Uma Thurman en Méduse. Elle était extraordinaire, franchement, avec sa chevelure serpent et puis son allure. C'était vraiment incroyable. Mais par contre, en comparaison du livre, ils ont vraiment pris une toute petite partie de ce qui se passe dans le livre pour en faire le scénario. Donc, il me manquait beaucoup de choses, quoi. Et souvent, c'est ce que les fans du livre ont dit, c'est que en comparaison des deux, il y avait trop peu de choses dans le film par rapport. Mais si on le prend à part, en fait, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ça se laisse regarder, c'est divertissant, pas prise de tête.
Et ce lien à la mythologie, à la façon de le comprendre, on le comprend aussi bien dans le film que dans le livre.
Il y a moins d'explications et surtout il n'y a pas de flashback. Donc effectivement, on est confronté tout de suite aux différents monstres. C'est moins didactique, c'est sûr.
Alors une question toute bête, ce film s'appelle comment ?
Alors le premier, ça s'appelait Percy Jackson, le voleur de foudre. Et le deuxième, il s'appelle La mère des monstres.
D'accord. Et alors du coup, s'il y a une adaptation cinématographique, c'est que ça a dû marcher quand même au niveau des livres ?
Ah, les deux, oui. Les livres marchent bien, marchent très bien même. Et le film, en fait, avait plutôt bien marché. Et du coup...
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lire cette saga ?
Oh, je ne m'en rappelle plus.
C'est un style malgré tout.
Oui, que j'aime. Effectivement.
C'est un style littéraire que tu aimes, donc...
Oui, effectivement, c'est de la fantasy. Donc, je ne sais plus comment j'ai découvert celui-là, mais on les a lus avec ma petite sœur. Et du coup,
qui est une intello aussi.
Voilà. Mais non, qui n'est pas une passe tellement. Enfin, si,
Elodie, si tu nous écoutes. Hein. Bah, la petite dédicace, c'est sympa.
Ça, c'est fait, c'est sympa. Voilà.
Non,
c'est
en tout cas, on l'a lu ensemble et on a pu partager autour de ce livre et ce que chacun...
C'était la position tout à l'heure du parent avec... du savant avec l'apprenant.
Oui, si on veut.
Bon.
En tout cas, tu nous le conseilles de le lire cet été, voilà, si on est sur la plage ou Guillaume qui reçoit ses amis. Voilà, on...
Ah, si je reçois mes amis, je peux pas lire.
Désolée, les gars, je vous laisse. Je vais lire mon livre.
Tu peux peut-être lire le soir dans ton lit.
Ça peut être le test. Si tu n'arrives pas à le poser pour parler avec tes amis, c'est que tu as aimé.
Oui, mais alors j'ai encore à lire les nuances de Grey.
Mais c'est pas possible.
Mais non, j'ai pas avancé. J'ai pas le temps. Et en plus, Nicolas Le Floch, dont nous avons parlé.
Oui, effectivement.
Et les deux sont sur ma table de nuit. Ils prennent la poussière. Mais bon, heureusement, il y a un long week-end qui arrive et qui va pouvoir permettre.
Plus vieux,
qui va pouvoir permettre d'avancer là-dedans.
Et alors, du coup, Aurélie, tu nous proposes quoi comme musique ?
Alors, je vous propose Louise Attaque, À plus tard, Crocodile.
Et pourquoi ça ?
Désolée, je vais faire mon intello. Le crocodile, symbole de la Rome antique, de la Nîmes antique. Et qu'est-ce que je raconte, pas de Rome, de Nîmes dans l'Antiquité.
Eh ben, bravo. C'est parti. Top, 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 top,
Mademoiselle, dis-moi comment tu t'appelles, moi. Mon petit nom c'est Louis. Au plafond de ma chambre, j'ai peint des étoiles. Le ciel, la pièce, ça l'a grandi. Dans un coin de ma chambre, j'ai mis la tour Eiffel. Pourquoi, si tu veux, je te dis. Chaque fois qu'il quitte mon île, j'entends à plus tard crocodile. Each time she crossed the river, j'entends see you later, alligator. Dis mademoiselle, dis-moi comment tu t'appelles, moi. Mon petit nom c'est Louis. Plafond de ma chambre, j'ai peint un sous-marin. La mer, le ciel, ça l'a grandi. Chaque fois qu'il quitte mon île, j'entends à plus tard crocodile. Each time she crossed the river, j'entends see you later, alligator. See you later, alligator. See you later, alligator. See you later, alligator. Ta 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 ta.
Actu,
elle
et lui. Et voilà, c'est déjà la fin de ce magazine Actuel et lui. Voilà, qui nous avons parlé de plein de choses aujourd'hui, plein de choses de cette actualité. Simplement, vous rappeler que sur l'antenne de 48FM, vous pourrez retrouver ce soir à 18h11 le magazine spécial consacré à l'éducation qui était en direct mardi. Et puis demain à 12h30, vous pourrez réentendre l'émission réalisée par le Cercle des journalistes de la Lozère concernant la Mostra. Donc, c'est une visite guidée qui est faite par Sandrine Morin et Ludovic Terol qui sont partis donc à la rencontre des artistes dans le cadre donc de cette Mostra. Vous savez, c'est vitrine, ce lèche-vitrine d'art contemporain qui est proposé à Mende. Donc voilà, soyez au rendez-vous sur 48FM.
Et si on veut retrouver l'émission actuelle et lui ?
C'est pareil, 48FM.org, dans la rubrique Les Mags. Et ensuite, vous pouvez retrouver tous les numéros d'Actuel et lui. Voilà, et puis rediffusion mardi à 18h11 sur 48FM.
Oui, et puis on espère avoir des réactions sur le Facebook aussi.
Oui, voilà, vous pouvez nous proposer des sujets parce que parfois, c'est un petit peu dur. Bon, même s'il y en a certains qui ont des chroniques écrites pour la fois d'après. Hein. Mais voilà.
Ça, c'est les intello.
Voilà, c'est ça. Exactement. Mais bon, c'est ça simplement pour une question éditoriale.
Mais qui aime bien châtie bien.
C'est ça, tout à fait. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous proposer aussi des thèmes qu'on puisse aborder dans cette fabuleuse émission que vous écoutez maintenant nombreux, puisque nous avons quelques retours d'entre vous. Voilà. Merci à tous. Bonne journée sur 48FM.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Actu,
elle
et lui.
Actu,
actu,
actu, elle et lui.
Elle,
lui,
d'actuel
et lui.